que c'est beau! Alors, c'était pour vous faire plaisir, très cher Alain
Parent. Merci, c'est vrai que ça me fait plaisir. Ces quelques notes-là sont très anciennes dans ma mémoire.
Oui, et elles font partie aussi de votre plus récent ouvrage, « 1000 secrets, 1000 dangers », une bonne brique qui fait sensation. Le Cartanier, c'est votre maison d'édition, et c'est quand même pas une nouveauté, mais on en parle encore et encore.
Ouais. Oui, c'est, je sais, c'est une grande, grande chance de pouvoir accompagner un livre pendant autant de temps, parce que vos auditrices puis vos auditeurs le savent peut-être pas, mais le cycle de vie d'un livre est très, très court. Donc, parfois même juste 3 mois. Alors, c'est dur quand on a consacré beaucoup de temps. Ouais. Et c'est le cas de beaucoup d'écrivaines, beaucoup d'écrivains qui...
J'imagine que vous l'avez vous-même vécu avant ce grand succès-là, parce que vous êtes auteur de d'autres ouvrages. Je vais les nommer, Alain, puis je vais d'abord vous dire bienvenue.
Ben, merci, Hélène. Merci de me recevoir.
Ça a commencé un peu sur les chapeaux de roue, tout ça, là.
C'est bien,
mais,
c'est bien.
Ça me fait très plaisir de vous accueillir.
Merci, moi aussi, je suis content d'être là.
Alors, Alain, vous avez écrit Matamor numéro 29. Mm-hmm. Ça a été publié en 2008, donc ça fait 15 ans que vous publiez officiellement?
Même plus que ça, parce qu'en 2004, quand Éric de la Chalère a fondé la maison Le Cartanier, j'ai publié un premier livre de poésie où on retrouve beaucoup de thèmes très près de « 1000 secrets, 1000 dangers ». Alors, ça fait une vingtaine d'années bientôt.
Quel est le titre de ce recueil?
Ça s'appelle « Quelque chose se détache du port ».
Ah, je l'avais ici, « Quelque chose se détache du port », mais je n'avais pas l'année 2014.
Ah, ben c'est oui, 2004, c'est 2004, ah, mais peut-être qu'il y a une réédition. Non, mais il y a eu plusieurs rééditions aussi, donc des fois, entre la date où le livre est imprimé puis où il a été publié.
Mais c'est votre premier livre publié.
C'est mon premier livre publié en 2004. Et donc, c'est vrai, oui, que ce cycle-là, c'est très troublant quand on a l'impression qu'on arrive, on offre quelque chose, et puis la présence même d'un livre en librairie, c'est-à-dire est conditionnel à toutes sortes de choses. Et puis, pour que le livre soit vu, il faut déjà qu'il y ait plusieurs quantités du livre. Mm-hmm. Il faut qu'on puisse faire une petite pile du livre. Et puis, pour ça, ça prend des gros tirages, ce qu'on n'a pas au début, tout ça. Donc, il y a une vraie logique mercantile associée à ça qu'on ignore souvent. Et je pense qu'il est important de rappeler et puis d'encourager aussi ceux qui ont envie de faire ce travail-là, de se dire tranquillement, les choses se placent.
Parce que c'est ça, ma recherchiste, une de mes recherchistes écrit des livres et une de ses questions, c'était « Est-ce qu'on peut bien gagner sa vie comme auteur au Québec? » Parce que c'est aujourd'hui que le nouveau conseil d'administration de l'UNEX sera dévoilé, après la démission du précédent. Et selon vous, Alain Farah, qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer la situation des auteurs au Québec?
Mais à la question de votre recherchiste, je répondrai un très franc non. Donc, on ne peut pas gagner sa vie au Québec de par sa plume. Ceux qui le font se comptent sur les doigts d'une main, peut-être deux, mais plutôt une main, parce que ce qu'on entend souvent par gagner sa vie, ce serait par le droit d'auteur. Mm-hmm. Et donc, générer un revenu correct à partir de 10% du prix de vente d'un livre, ça prend des milliers, des milliers, des milliers d'exemplaires. Alors, c'est impossible, mais ce que les gens font, c'est qu'ils ont un cycle de production plus court. Donc, si on publie, mettons, un livre par année, un livre par 18 mois, notre travail est adapté, par exemple, sur scène ou au cinéma, si on accepte de faire des choses périphériques, des commandes, etc., on va être capable de construire une belle qualité de vie, mais c'est pas l'image un petit peu romantique de la personne qui ne vivrait que de sa plume. Quant à la question, la seconde question, je crois que ce qui est en train de se passer en ce moment à l'UNEC, et même s'il y a beaucoup de nuances à faire, on est sur le bon chemin parce que nous n'étions pas comme artistes avec le même statut que les autres artistes. Parce que notre syndicat n'avait pas vraiment un droit de négociation, d'entente collective. Et à partir de là, ben, on va être capable de formaliser ou de conventionner toutes sortes d'activités. Mais la difficulté avec ça, c'est que je vous donne l'exemple de la séance de dédicace. Un classique quand on écrit.
Dans les salons du livre,
séance de dédicace. Alors, pour parler, ce que j'en comprends. Hein, c'est la première fois, je suis content de le faire à votre micro. C'est la première fois que je parle publiquement de ça, même si on m'a beaucoup sollicité. J'avais pas envie de prendre la parole parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de bruit autour des événements et puis beaucoup de mauvaise foi aussi de la part de certaines et certains. Mais ce qui me chicote, par exemple, c'est que dans une logique comme celle d'une d'une convention, disons, mur à mur pour tout le monde, eh bien, on va arriver à se dire, bon, ben, un écrivain qui se déplace en séance de dédicace, c'est son travail. Donc, s'il s'assoit à une table, il doit être payé 200$ pour une heure. Mais ce qui va se passer si c'est ça, il y a deux options. C'est-à-dire, dans le système actuel, c'est pas viable parce que pour payer l'auteur 200$, il faut minimalement qu'on vende, si on veut le faire même bénévolement, 200$ de livres pendant cette présence-là, ce qu'on fait pas. Et donc, ce qui va se passer, l'effet pervers, ce sera qu'on va juste inviter les écrivains qui sont capables de générer ces revenus-là pour être payés.
Alors, il y en a plein qui vont être pénalisés.
Exactement. À l'inverse, et puis ça, c'est ça que moi j'envisage, ouais, c'est qu'on collectivement comprenne la richesse de notre culture et qu'on la subventionne en conséquence. Comment ça se fait que des entreprises financières peuvent s'échapper dans des paradis fiscaux? Comment ça se fait qu'il y ait toutes sortes de manières, c'est-à-dire de sauver de l'impôt et puis de pas nécessairement payer sa juste part ou qu'on puisse faire des profits infinis, etc.? Mais qu'à côté de ça, ben, on donne des grenailles à notre culture.
Aux créateurs.
Exactement. Donc, il y a comme... C'est une conversation vraiment intéressante.
Ouais.
Mais je pense qu'on est au début de quelque chose qui va s'échelonner sur des années en termes de négociations et tout ça.
Alors, vous avez bien réfléchi à la chose. Ça s'entend, mais il y a encore du travail à faire, évidemment. Là, parce que c'est comme on est comme dans un chantier. Là. Les auteurs s'expriment sur le sujet et veulent être entendu.
Ouais, ouais. Puis c'est des questions qui sont compliquées, mais le contexte, je pense qu'il est bon. Donc, vous m'apprenez que c'est aujourd'hui qu'on connaîtra les résultats de l'élection. Alors moi, j'ai voté et il y avait vraiment des prises de position intéressantes par rapport au fait de vraiment s'approprier les nouveaux pouvoirs de ce syndicat-là. Et je pense que ça va passer par du lobbying, évidemment, par la conversation. Mais là où je trouve le contexte intéressant, c'est justement l'idée d'une sorte de fierté culturelle qui est beaucoup mise de l'avant. La pandémie a révélé ça. La littérature québécoise, comme je vous dis, ça fait presque 20 ans que je publie, mais c'était pas du tout comme ça. Il y a même 10 ans pour mon roman précédent, d'avoir accès à toutes ces possibilités-là de rencontre avec le public, la librairie indépendante qui est super vivante, tout ça. Donc, si ça, on y tient, ben que les babines suivent les bottines.
Oui, c'est ouais. Ça. Alors, Alain Farah qui reprend un proverbe célèbre, ouais. Il faut que les babines suivent ouais. les bottines. Il y a eu donc la ligne la plus sobre. Il y a aussi un de vos plus connus, c'est Pourquoi Bologne,
ouais, ouais.
qui a connu un bon succès. Mm-hmm. Et dans Mille secrets, mille dangers, là, vous êtes complètement ouvert parce que c'est un roman autobiographique qui raconte votre mariage, qui vous met en vedette. Il y a toutes sortes de personnages qui gravitent ouais. autour du personnage principal, le narrateur, qui s'appelle Alain. Comme
ouais,
vous.
Ouais.
Comment vous décririez votre personnage dans le roman?
Comme un pauvre type.
Un pauvre type aussi attachant.
Oui, peut-être, mais je pense que...
Il n'arrache.
Oui, le plaisir pour moi, c'est de justement revisiter mes propres expériences en mettant en scène justement un personnage. Donc, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui est à la fin de la vingtaine. Il se cherche, il est habité par beaucoup, beaucoup d'angoisse, mais aussi par une situation. Puis je pense que certaines et certains de vos éditeurs et de vos auditrices seront sensibles à ça. Donc, il y a une maladie chronique. Donc, il est dans un état d'handicap, mais c'est l'handicap invisible. Donc,
une maladie auto-immune qui n'est pas nommée,
qui concerne, qui s'attaque au système intestinal surtout et qui fait en sorte que, ben, il peut aller à la toilette 25 fois par jour, qu'il est sous-alimenté, qu'il est beaucoup dans les hôpitaux, qu'il y a des traitements immunitaires, etc. Donc, tout ça finit par lui rentrer dedans au moment où il doit être en représentation de manière, disons, ultime.
Oui, c'est la vedette.
Oui, c'est la vedette du jour, c'est le mariage. Et j'ai envie de dire qu'il y a une dimension civilisationnelle aussi à ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans la vie intime, mais c'est le rite de passage. On devient un adulte, tout le monde nous regarde et tout. Donc, j'ai essayé de le mettre sous un maximum de tension, mais une tension qui est très, très intime en même temps. Et puis, il essaye de se débrouiller comme il peut. Mais je pense qu'il est beaucoup aimé par ses proches et que ses proches aussi souffrent d'une anxiété analogue. et qu'à ce moment-là, tout le monde un petit peu commet des impairs toute la journée, qui fait que c'est aussi une comédie, je pense.
Oui, on rigole pas mal.
C'est ça, exactement. Oui, oui. Donc, c'est un peu comme ça que je le décrirais, mais la beauté de vieillir, c'est d'être capable de l'inventer depuis les 44 ans que j'ai et qui regarde ce jeune homme-là en disant « Ouais, sérieux, t'sais, c'est pas fort des fois là. »
Ça part de votre vécu, Alain, et vous parlez de votre famille. J'étais curieuse de savoir si votre famille a lu votre livre.
Je crois que oui, mais la famille, donc par définition, comme je viens de la Méditerranée, d'Égypte et du Liban, la notion de famille est extrêmement large, mais pour moi, de ce point de vue-là, je suis plus québécois, c'est-à-dire ma famille, c'est vraiment ma famille immédiate et tout, et donc j'ai été préoccupé de savoir ce que ma mère, mon père, ma sœur, qui est pas dans le livre, mais qui
est là. Mais vos parents sont dans le livre.
Oui, mes parents sont dans le livre. Qu'est-ce que eux allaient penser? Et puis, je pense que c'est pas facile. C'est pas facile parce que, dans le fond, moi, je fais le choix de me mettre en scène, mais eux ne font pas nécessairement le choix d'être mis en scène. Et
ça rappelle Le Vrai Monde de Michel Tremblay.
Oui,
hein?
Absolument, ouais. Absolument, qui est une influence et qui parle bien justement de ses conséquences. Mais en même temps, si on revient au Vrai Monde de Tremblay, pour être capable, pour que le personnage comprenne les sévices que subit notamment sa mère et sa sœur, ben il doit se représenter, il doit écrire cette histoire-là. Et c'est difficile pour les autres. Alors ça, c'est
pour les proches.
Ouais, pour les proches. C'est une réflexion, je réfléchis beaucoup à ça maintenant. Je pense que je l'ai fait de façon un peu insouciante dans Mille secrets, mille dangers, parce qu'il y avait...
Pour vous, c'était clair, c'était de la littérature.
Oui, c'est ça, mais c'est surtout... Non, mais je comprenais qu'il y avait un risque, mais il était totalement... Mon inquiétude était totalement concentrée sur le personnage de Myriam, qui est la meilleure amie du protagoniste, qui, elle, va, dans le fond, perdre la vie. Et comme c'est inspiré de ma meilleure amie et que je ne pouvais m'empêcher de penser au moment où sa mère allait le lire ou un jour ses enfants, j'étais aux aguets beaucoup. En fait, d'essayer de protéger cette représentation-là.
Est-ce que vous avez fait des gestes? Est-ce que vous avez appelé la mère de votre amie pour lui dire elle sera dans le roman et je vais raconter son histoire?
Oui, j'ai fait ces gestes-là qui sont toujours un peu dangereux parce que si elle m'avait dit non, je veux pas, je suis pas certain que j'aurais dit OK, je le fais pas. Mm-hmm. Donc, on se met dans une position un peu curieuse quand on fait ça. En même temps, on appelle, on avertit, on demande pas la permission. Mais le moment qui a été très, très troublant, mais très puissant, j'ai pas eu la chance de lui en reparler, c'est par rapport à son conjoint, au père de ses enfants, parce que très tardivement, c'est mon éditrice Alexis Morin qui m'a dit, tu sais, qui est autrice elle-même et puis qui a fait un livre très beau qui s'appelle Ouvrir son cœur, où elle a été exposée
j'ai adoré.
C'est magnifique. Ouais. Où elle a été exposée à cette question-là de comment les autres réagissent. Elle m'a dit, tu sais, il va lire ça. Ouais. Il va lire ça, cet homme-là que tu aimes et que tu apprécies. Elle dit, je pense que tu as une conversation à avoir avec lui. Et puis, on a eu cette conversation qui était très belle parce qu'il m'a dit, regarde, je te connais, je sais le genre d'écrivain que t'es, mais il dit, est-ce que tu peux me faire une faveur et faire en sorte qu'il y ait une possibilité de dire aux enfants que ce n'est pas leur mère?
Ah oui.
Et je trouve ça très important parce que je travaille moi-même sa distanciation. Donc oui, les noms des personnages sont les noms de ma famille, mais ce n'est pas eux. Hein? Donc, quand vous parlez, Hélène, de littérature, c'est que vous avez, par votre expérience, par vos connaissances, la capacité de percevoir cette distance-là. Mais la plupart des gens, parce que la littérature est tellement puissante, ils adhèrent à 100% et tout d'un coup, ben, on se retrouve quasiment dans les années 50 aux gens qui vont porter de la nourriture à André Champagne dans les pays d'en haut, là, ou qui méprisent
celle qui fait la matrone. Donalda,
oui, c'est ça, exact. Ouais, ou qui méprise la matrone dans
Aurore
l'enfant martyr.
Oui.
Donc vous comprenez, il y a cet effet-là de mimésis, hein, c'est un art très ancien, qui fait en sorte que moi, et puis j'y pense maintenant parce que j'essaie de me remettre au travail, puis maintenant quand je dis mon père, ma mère, mon fils, ma fille, ben peu importe ce que je dis, les gens vont penser que c'est eux.
C'est sûr.
Donc...
Surtout que vous changez pas de nom. Ouais. Mais mon père, ma mère, c'est clair, là, mais quand le personnage principal s'appelle Alain, c'est sûr qu'on a l'impression d'apprendre plein de choses sur Alain Farah.
C'est ça, mais je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un risque, mais je trouve que
Est-ce que vous avez perdu des amitiés par rapport à...
perdu des amitiés, oui, en général.
Par rapport à votre œuvre, à ce que vous racontiez dans votre œuvre?
Pas aussi brutalement que ça, mais je sens souvent l'inconfort. Je sens l'inconfort, je sens...
Le malaise.
Ouais, le malaise, une sorte de d'accusation totalement tue, mais d'un peu d'impudeur ou de... Tu sais, pourquoi là, on est pogné à se taper tes bibittes et tout ça? Donc, mais moi, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et puis, à l'âge que j'ai, dans le fond... Ça m'importe pas, ça. Mm-hmm. Je suis capable de tolérer cet inconfort-là, mais c'est sûr que ça produit ça. Mais il y a comme quelque chose pour moi aussi qui c'est aussi un compliment, parce que ça veut dire que le travail... Il
vient te chercher.
Ouais, c'est ça.
Il touche.
Ouais, c'est ça. Donc oui, on m'a dit... Mais c'est drôle, c'est pas les gens très proches. C'est vrai, mettons les gens qui... Les voisins, des fois, les gens qu'on côtoie dans le quotidien,
ouais,
mais...
Ouais.
J'ai en tête une qui me dit, j'ai été très, très choquée, vraiment. Elle m'a vraiment parlé de ce... qui était choquée d'avoir accès à ça. Mais c'est drôle parce que...
D'avoir accès à quoi,
ben,
exactement?
C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça que je me pose comme question. Mais c'est une forme d'intimité. Et je crois que c'est peut-être basé aussi sur le fait de sentir qu'on a accès à quelque chose auquel on n'a pas droit. Et puis, c'est comme le contraire du voyeurisme jusqu'à un certain point.
On se sent impudique.
Oui, c'est ça. Et on ne veut pas savoir.
Ouais.
Mais écoutez, vous ne voulez pas savoir, fermez le livre.
Je veux dire, ça se fait.
C'est ça, exact.
Change de poste.
Exact.
Ferme la radio.
Exact.
Éteins la radio, pas maintenant. Là.
C'est ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu pervers aussi là-dedans, de dire, ah, ça m'expose à ma volonté peut-être de voir aussi.
Oui.
Alors que si on est comme, regarde, le gars, il sait ce qu'il fait, là. Puis amusons-nous. Mm-hmm. Puis j'ai rien inventé, là. Je veux dire, une de mes influences importantes, c'est tout le travail des humoristes juifs new-yorkais. Et puis, justement, en quittant... hier, j'étais avec Inza Desjardins en onde. Et puis, en quittant le studio, on s'est mis à parler d'un épisode de Seinfeld et
ah,
tout
oui?
ça. Donc, je veux dire, la tradition est quand même très ancienne de se mettre en scène. Puis, on pourrait parler de Dante aussi, là. Donc, en moins drôle, peut-être.
Le professeur de littérature qui a une large culture et qui pourrait parler autant de Dante que de Seinfeld.
Ben, pour moi, c'est les deux œuvres me touchent.
Oui, oui. Et mais je ne sais pas quelle sera la réaction quand les gens vont voir le film, parce que Mille secrets, mille dangers sera porté à l'écran. Je me demandais, parce que vous avez déjà adapté le film de Denis Arcand.
Ouais.
Ça avait été tellement bon. Moi, ce film-là, c'est un de mes films préférés. Alors, j'avais peur quand je suis allée voir la pièce. Vous l'avez adapté. Ça a été une réussite, grand succès également, Le déclin de l'Empire américain. Et puis là, ben, c'est le contraire.
Ouais.
C'est le livre qui va être porté à l'écran. Philippe Falardeau, est-ce que c'est vous qui avez choisi le cinéaste? Est-ce que c'est vous qui signez le scénario?
On a eu la chance, mon éditeur et moi, oui, de choisir Philippe parce qu'on avait beaucoup de propositions. Donc, quand on reçoit beaucoup de propositions, on a l'embarras du choix. Puis la notion d'embarras prend tout son sens.
Ouais.
Quoique, c'était vraiment pas un choix difficile à faire parce que c'est vraiment un artiste que j'admire beaucoup.
Vous suivez sa
question,
carrière depuis longtemps.
Oui, c'est ça. Quant à la signature, ben, on a trouvé une sorte d'équilibre qu'on aime et qui fonctionne bien, où c'est quand même vraiment Philippe qui est un auteur lui-même, qui a signé la plupart de ses scénarios, ou en fait, la plupart de ses scénarios, je pense, les scénarios américains, notamment Chuck, je pense que c'est pas lui qui l'a écrit, mais donc, on a une sorte d'équilibre où je pense que c'est très important que ce soit quand même Philippe qui soit le leader,
mm-hmm,
de ce processus-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je suis pas loin. Et vous faites une comparaison avec le travail qu'on a fait pour Le déclin de l'Empire américain avec Patrice Dubois. Eh bien, Denis Arcand nous avait laissé entière liberté.
Ah oui?
Oui, entière liberté. Et qui dit adaptation dit trahison. Et il nous a laissé trahir son œuvre, mais de la bonne façon. Mais
oui,
de la bonne façon.
Il faut faire des choix.
C'est ça, il faut faire des choix, mais il faut faire un petit peu un enfant dans son dos aussi. C'est-à-dire que la génération qui prend la parole dans notre version est très critique à l'égard de la génération de Denis Arcand. Et donc, je m'attends à ce que Philippe fasse la même chose avec mon livre et qu'il le trahisse. Et c'est déjà commencé et je trouve ça beau à voir.
Bon. Alors, il fera un enfant de votre dos.
Exactement, exactement.
Et on va pouvoir découvrir le film quand, Alain? Est-ce que vous le savez?
Non, je le sais pas. La vérité, c'est que personne le sait, étant donné qu'on est en écriture et qu'on ne sait pas encore... on sait qu'on va seulement aller demander de l'argent quand on sentira qu'on est allé au bout de l'écriture. Mais le cycle de production d'un film, c'est-à-dire entre la signature de l'entente et puis la soirée de la première, d'habitude, c'est à peu près 5 ans. Donc on a commencé à travailler en avril 22. Donc, je me dis, quelque part en 27, bon,
en espérant
ça sera
qu'on
fait.
Soit toujours en vie.
Ouais, exact.
Dans votre roman.
Commencé par moi.
Alain, et moi aussi.
Ouais.
Et tous les auditeurs.
Ouais.
Alors, Alain, Mille secrets, mille dangers, on peut lire. Vous avez trouvé. Je me demandais si vous aviez trouvé une réponse parce que vous posez la question à quel âge comprend-on le monde où l'on est né, où l'on a grandi? Et vaste question.
Ouais. Ben, je pense que c'est la beauté de vieillir, c'est qu'on comprend un peu plus, mais on n'est pas à l'abri d'autres mystères.
Ça veut dire quoi exactement comprendre là où on est né?
Ben, je pense que ça vient... En fait, je crois qu'une des phrases qui précède, c'est une explication de ce qu'est le Moyen-Orient. Et le narrateur se demande, en fait, quand est-ce qu'il va finir par comprendre ou qui comprend exactement toutes les tensions du Moyen-Orient. Et puis, il opère une sorte de zoom out en se disant, mais de toute manière, quand est-ce qu'on est en mesure de savoir exactement tout ce que ça implique que d'être d'un endroit?
Mm-hmm.
Et je donnerais l'exemple qui est le mien, qui est le vôtre, je crois, du Québec même, parce qu'il y a tant de complexité par cette dynamique... cette dynamique justement coloniale, par la présence des premiers peuples, par l'immigration, qu'on ne sait jamais ou qu'on n'a jamais une vraie prise, j'ai l'impression, sur toutes les réalités parce qu'elles sont multiples et mon histoire n'est pas la vôtre, n'est pas celle de l'autre. Donc, c'est aussi ça qu'on comprend, qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire, jamais.
Mm-hmm. Ça reste passionnant.
Oui, ça c'est sûr.
Alain Farah, le temps file. Je voulais savoir qu'est-ce que vous allez faire de votre été, sur quoi vous planchez actuellement?
Ben, j'essaye de me remettre au travail. Donc j'ai beaucoup quand même, pas beaucoup quantitativement, mais j'ai essayé de toujours écrire depuis le début de Mille secrets, mille dangers, parce que ça m'avait desservi de ne pas avoir fait ça après mon dernier roman. Quand je m'étais remis au travail, il y avait une vraie angoisse qui était là. Alors, je continue de travailler, mais je ne sais pas tout à fait encore qu'est-ce que je fais. Mais je suis chanceux d'avoir Éric de la Rochelière, mon éditeur, dans ma vie, parce qu'il est très près de moi, puis on en discute. Puis des fois, il y a des idées, puis j'essaie de quoi, puis ça ne marche pas. Mais j'ai surtout un été où j'ai à voyager pour le travail encore,
ah,
pour
oui.
Mille secrets, mille dangers. Donc, je pars dans quelques jours en France et puis on va continuer d'accompagner ce livre-là puis de faire des rencontres aussi agréables que celles que je fais avec vous.
C'est très gentil, Alain Farah. C'est réciproque. Je suis très contente de vous avoir rencontré de nouveau parce qu'on s'était rencontrés lors d'une rencontre d'auteurs.
Ouais, oui.
Et puis, vous êtes toujours le bienvenu. Merci de vous être déplacé en studio.
Avec grand, grand plaisir.
Pas nécessairement évident se promener en ville par les temps qui courent. Mille secrets, mille dangers. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le faire. Belle lecture de vacances.
Oui, c'est vrai.
Et c'est écrit, je vous le rappelle, par Alain Farah.
Disponible en livre audio aussi, ce qui
oui,
est très important.
Oui, c'est vrai,
pour,
la très belle voix de Mani Soleil-Manlou,
oui,
qui fait les choses extraordinairement bien. Alors, merci Alain.
Merci Hélène.
Merci à toute l'équipe. Ici Hélène Denis, je vous retrouve lundi à compter de 9h30.